Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma.
Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film.
C'est un scandale! Un scandale!
Nous déclarons le 60e Festival International du film de Cannes ouvert.
Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 5. Je suis David Honora et je suis toujours à Cannes, en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent toujours sur la croisette. Il y avait un saladier avec un reste de sangria qui date de la présentation du Gaspard Noé. J'ai pris soin de le mettre à l'extérieur parce que sur l'enregistrement précédent, ça commençait déjà un petit peu à sentir dans notre petit studio d'enregistrement avec vue sur la mer.
Et si ça finit comme dans Climax
Ça peut partir en sucette. Et alors avec moi, j'ai donc Arnaud Bordas. Arnaud, comment ça va?
Ça va très bien, David.
Et Lucille Bélan. Qu'on retrouve après le premier épisode, toujours en forme.
Voilà, alors beaucoup moins qu'au premier épisode, on va quand même pas se faire... faut pas déconner, on est en fin de festival.
Mais du coup, maintenant on a vu pas mal de films et on a du coup un programme assez chargé pour cet épisode. On va parler un peu longuement de quatre films, entre autres de Mirai de Mamoru Hosoda, qui était à la quinzaine des réalisateurs, de Burning de Lee Chang-dong, qui était en compétition, avec également deux autres films en compétition, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell et Dogman de Matteo Garrone. On va parler de tout ça, on va prendre le temps d'en discuter et on va commencer un petit film tout doux d'animation japonais de Mamoru Hosoda qu'on a découvert à la quinzaine des réalisateurs. Mirai, ma petite sœur, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est un peu obligé de grandir parce qu'il y a une petite sœur qui arrive dans la famille. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu, Arnaud?
Oh bah le chef-d'œuvre, quoi, tout simplement. Et ouais, parce que tu disais petit film tout doux, mais tout doux. Alors, enfin, c'est vrai qu'on c'est pas du Gaspard Noé, hein, ça c'est clair.
La transition est spéciale.
Voilà, mais par contre, c'est un film qui communique énormément d'émotions, qui est particulièrement bien fait à ce niveau-là. Et oui, forcément, c'est une sorte de bain de jouvence, quoi. Comme tu disais, c'est l'histoire donc d'un petit garçon qui doit apprendre à grandir parce que sa petite sœur il a une petite sœur qui vient d'arriver, qui vient de naître. Et donc on le voit avec ses parents et sa petite sœur. Et lui, forcément, se sent exclu par ce nouvel arrivant là dans la famille. Et donc en fait, en allant dans le jardin, il va tomber dans le jardin familial sur une sorte à côté d'un arbre là qui représente un petit peu l'arbre familial, quoi. Et il va basculer, comme souvent avec Mamoru Hosoda, dans une sorte d'univers parallèle, quoi. Parce que ça, c'est une thématique qui lui tient à cœur, à Hosoda. Je veux dire, quand on repense au monde virtuel et au monde réel dans Summer Wars, l'univers de la bête dans Le Garçon et la Bête, dans lequel tombait le jeune garçon qui était le héros du film, tout ça. Il y a toujours dans ces films une mise en parallèle comme ça entre la réalité et une sorte de monde parallèle qui va révéler le héros à lui-même, quoi. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que symptomatique de son univers à Mamoru Hosoda, c'est qu'il utilise cet univers parallèle et toute la fantasmagorie que ça peut représenter pour nourrir la réalité. Les deux sont souvent étroitement liés. Et parce qu'il y a, on peut pas dire que c'est des films de pure fantasy. Bon, il y en a peut-être un peu plus que d'autres. Je pense notamment au Garçon et la Bête, mais globalement, ces films en général sont des films très réalistes. tant au niveau du graphisme que de des émotions qu'il tente de susciter dans le spectateur. Et quand je parle de ça, c'est-à-dire, je veux dire, on se retrouve souvent. Ça me fait penser des fois à Malick, mais en version à Terrence Malick, mais en version animation. On se retrouve régulièrement avec des moments de vie qu'on reconnaît. Ouais. Des sensations qu'on a vécues. Et là, c'est très prégnant dans Mirai, toutes les sensations par rapport à l'enfance, par rapport à la découverte de la vie, à la découverte de ses propres sentiments. C'est vraiment très finement observé, et d'autant plus finement observé quand on sait que Mamoru Sada est un fils unique. Alors, il a dit évidemment que ce qu'il a beaucoup nourri, c'est sa paternité, relativement récente. Je crois qu'il a deux enfants, mais qui sont très petits. Enfin, qui sont pas bien âgés, quoi, qui doivent avoir l'âge à peu près du petit garçon de Mirai. Donc il y a ça. Après, c'est souvent ce qui fait les grands narrateurs, et notamment les grands narrateurs d'animation, c'est ce don d'observation, quoi, et de la capacité à retranscrire ce qu'ils ont observé. Je parlais de l'âge du gamin aussi, c'est ça qui est une sorte de défi aussi, hein. Alors le film, on réalise pas forcément tous les défis narratifs qui s'imposent, quoi. Parce que il a réussi, ça c'est la marque des plus grands films, tu vois, à faire en sorte que tout ça coule, quoi, de manière très très facile pour le spectateur, et qui accepte le film comme une évidence quasiment. Mais choisir et notamment en animation, choisir comme référent principal, comme point d'ancrage pour le spectateur, un enfant de 4 ans, c'est vraiment pas évident à la base, quoi. Parce que encore 4 ans, c'est encore 7 ans, bon, c'est l'âge où on commence à appréhender le monde, des trucs comme ça, enfin, en tirer quelque chose, quoi. Mais 4 ans, c'est difficile, mine de rien, de caler un film entier sur le point de vue, le ressenti d'un personnage de cet âge-là, quoi.
Et moi, ce que je trouve effectivement très fort, c'est qu'il y a un ancrage vraiment fort dans la réalité, et comme tu le disais, avec plein d'éléments dans lesquels on peut se reconnaître. D'ailleurs, avant la projection où je suis allé, il est venu dire un mot, et il avait une approche très, très simple, mais en même temps assez parlante de la manière dont on peut aborder le film. Il disait, si vous aviez des frères et sœurs, des petits frères et des petites sœurs, essayez de vous souvenir comment vous avez reçu leur arrivée, ou si vous étiez simplement un enfant, rappelez-vous comment vous étiez un enfant, et puis si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Ce truc qui paraît simpliste, mais en fait qui fonctionne très bien dans le film, justement par une représentation très réaliste de ces situations-là. Et je trouve que les scènes fantastiques, entre guillemets, ou les scènes de réalité, les scènes imaginaires fonctionnent d'autant mieux qu'on est complètement déjà, on se reconnaît très facilement en fait dans l'aspect réaliste. Et après, il y a aussi un aspect technique en fait du film qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup de techniques d'animation différentes qui sont utilisées. À la fois de l'animation 3D, de l'animation 2D, il y a des séquences plus, je dirais, plus aquarelles, plus abstraites.
Ça, il a toujours été très porté. Ça a explosé dans ce Mar Wars, d'ailleurs, ce côté. Ouais. Il avait fait une pub, d'ailleurs, pour Vuitton, hein, qui était basée sur l'esthétique super flat. Il a toujours été très fasciné par, justement, ce côté animation presque abstraite, quoi, tout en le faisant côtoyer avec une animation beaucoup plus réaliste.
Et avec des choses, ouais, très fidèles. Enfin, il y a des détails. Le père est architecte, il a un MacBook Pro, et sur le MacBook Pro, il y a écrit MacBook Pro. Enfin, c'est vraiment quasiment photoréaliste sur certains détails comme ça. Et puis,
tu as ce plan d'ouverture qui revient souvent dans le film, oui, aussi, avec le mouvement de caméra qui part de, je crois que c'est Tokyo, la ville. Hein, il me semble qu'on est dans la banlieue de Tokyo. Et un mouvement de caméra à l'échelle de la ville comme ça, et puis qui va dans la banlieue, dans le petit faubourg où habite la famille, là, et qui resserre de plus en plus sur la maison, quoi. Il est magnifique, ce plan, quoi. C'est un plan en 3D.
Ouais, qui est hyper impressionnant, qui d'ailleurs, rejoint le côté, un des aspects du personnage du père, donc qui est architecte, et qui il y a une référence explicite à ça dans le film. C'est la bonne qui dit elle est bizarre, cette maison. C'est ça les maisons d'architecte. Et effectivement, elle a un rôle important dans sa composition, notamment parce que c'est dans le jardin que vont se passer les échappées fantastiques. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a des des idées de mise en scène qui pourraient être de la mise en scène dans, dans du cinéma live et qui sont utilisées. Et ça c'est souvent là qu'on reconnaît les grands metteurs en scène de, d'animation, c'est qu'il y a aussi une idée de la mise en scène qui va à la fois utiliser la grammaire cinématographique générale du cinéma et en même temps tirer parti de ce que permet le, l'animation pour se faciliter des choses. Où il y a notamment un plan, des sortes de travelling rapide dans la diagonale de la maison où on retrouve un personnage en haut, en bas et, et on revient. Il y a pas mal d'idées comme ça aussi de montage qui sont hyper enthousiasmantes.
Mais c'est très vrai, ça, en fait, tu le vois de toute façon. Et puis je pense que c'est très actuel aussi parce qu'il y a beaucoup d'animateurs justement qui essaie de faire la jonction comme ça entre le cinéma en prise de vue réelle et l'animation. C'est pas pour rien si t'as des que ce soit des Américains comme Brad Bird ou Andrew Stanton qui évolue entre le live et l'animation. T'as le réalisateur de Dernier Train pour Busan aussi. Moi je trouvais que c'était le film coréen là, il y a 2-3 ans là. C'était un film aussi où on voyait que le gars venait de l'animation, c'était bourré d'idées scéniques, de trucs comme ça. Donc je pense qu'on est à une période justement où c'est intéressant de voir cette fusion justement qui essaie de récupérer et de synthétiser le meilleur des deux mondes, quoi. Et c'est vrai qu'Osoda arrive parfaitement à faire ça dans ses films. Moi ce que je pourrais dire aussi c'est par rapport en lien à ce que tu disais précédemment, c'est la formidable capacité d'empathie que génère le cinéma de Osoda. C'est-à-dire, il arrive à nous faire nous identifier bien souvent avec des personnages venus d'horizons différents, de tout sexe, de tout milieu social, de tous âges. Il y a une, enfin spécifiquement en plus dans le cinéma à l'heure actuelle où les services marketing tentent de nous vendre les films en les catégorisant de manière très communautaire, quoi, hein. Je trouve ça assez salvateur quoi. Osoda prennent le contre-pied de ça. Tu parlais du fait que enfin on parlait tout à l'heure des moments de vie qu'on peut retrouver quoi. Mais voilà, sachant que Osoda a été un fils unique, moi je trouve ça étonnant qu'il arrive à cerner toutes ces problématiques avec autant d'acuité. Mais enfin étonnant pas tant que ça parce que finalement voilà c'est quelqu'un qui fait beaucoup marcher ce que je disais, son empathie et à arriver à retranscrire ça de manière cinématographique quand même.
Alors donc Mirai, ma petite sœur de Mamoru Osoda, ça va sortir évidemment en France, ça sera distribué par Wild Bunch, on ne connaît pas encore la date de sortie.
Ça serait à la rentrée
a priori. À la rentrée à l'automne. Et on va passer du coup à un autre film, on change complètement d'univers, mais on reste dans l'Asie qui en fait à Cannes est plutôt très forte cette année. On a déjà parlé du film de Kore-eda, du film de Jiazhenke, du film de Bigan. Enfin, vraiment, la sélection asiatique est de très bonne qualité. Et on va parler maintenant de Burning du coréen Lee Chang-dong, qui est un film en compétition et qui parle de quoi, Lucille, raconte-nous.
Alors, ça parle de quoi ? Ça parle d'un jeune homme qui vient d'un milieu rural, qui est monté à Séoul pour devenir écrivain. Qui vit de petits boulots et qui, un peu par hasard dans la rue, retrouve une... Enfin, c'est elle qui le retrouve d'ailleurs. Une amie d'enfance. Une jeune fille très évaporée qui, pareil, est un peu perdue dans la vie. Et arrive un troisième personnage, un jeune homme de la jeunesse dorée qui la rencontre, elle, pendant un voyage. Et c'est un peu le triangle entre ces trois personnages. Moi je le disais dans la première émission, Lee Chang-dong il m'a toujours profondément ennuyé. Poetry et Secret Sunshine c'est des films qui m'ont jamais happé et donc là j'en attendais pas grand chose, sachant qu'il a toujours eu des prix pour ses films à Cannes. J'y allais confiante quand même de voir quelque chose de qualité, mais je pensais pas être touchée et il m'a complètement cueillie. C'est la première fois qu'il me touche autant et il y a une scène de danse face au soleil couchant de l'actrice principale Ji-hyun Jung-seo qui danse pendant, j'ai l'impression, une éternité, mais c'est
sur du Miles Davis.
Sur du Miles Davis, et c'est du, et je pense que c'est d'une beauté. Je suis même pas sûre d'avoir une scène aussi belle cette année au cinéma.
Alors cette scène est un peu le pivot du film qui qui bascule dans la deuxième partie dans un complètement un autre registre, enfin qui
quelque
va plus
chose
vers
qui,
le
qui relève
thriller,
un peu du thriller, ouais, tout à fait,
thriller mystérieux, alors qu'on est vraiment au début dans voilà, dans une histoire sentimentale avec à la fois c'est effectivement ce que tu disais, cette histoire de personnage, en tout cas l'opposition entre le jeune homme qui roule en Porsche et qui vit à Gangnam et celui qui vit à la campagne avec sa petite camionnette, et qui sont tous les deux, enfin qui convoitent la même jeune fille. Et moi, effectivement, alors exactement de la même manière, j'allais vraiment à reculons découvrir ce film. Et y a quelque chose de... Enfin, déjà, qui moi m'a pas mal captivé dans la première partie, c'est cette actrice. En fait, c'est une actrice débutante. On t'a dit son nom, Jeon Jong-seo, qui je crois c'est son premier rôle. Je faisais des petites recherches sur internet et apparemment les journalistes sont pas contents parce qu'elle cachait son visage en arrivant à l'aéroport. Enfin bon, il y a des histoires comme ça. Mais en tout cas, elle débute au cinéma et elle dégage un truc très très étonnant qui nous porte pendant toute la première partie du film, et ensuite il s'est remplacé par autre chose qui est le mystère de qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et du coup, alors je pense quand même que le film est long, il dure 2h30, et il y a peut-être des moments, notamment dans la première partie, qui auraient pu peut-être être coupés, mais il y a quelque chose d'assez puissant. Moi j'ai aussi une réserve, mais qui est plus une réserve rétrospective, c'est-à-dire que ça m'a pas gêné pendant le film, mais il y a un certain nombre de passages en force, de scénarios qui sont un peu des effets d'auteur, des trucs un peu pour faire bien à l'écran, et qui sont soit invraisemblables, soit un peu grossiers. Je pense à certaines séquences, enfin que je vais d'ailleurs pas dévoiler, mais qui me gêne un petit peu en repensant au film, dans un côté ça ressemble à, et c'est ce qui me gênait dans ses précédents films, à la panoplie de ce à quoi doit ressembler un film de festival. Mais malgré tout, il y a une ambiance, des acteurs, le trio d'acteurs est vraiment intéressant. J'ai été assez emporté. Je sais pas ce que tu en penses sur ces aspects-là.
Moi, c'est vrai que du coup, le film s'inscrit vraiment dans quelque chose de très intellectuel quand même. C'est inspiré de Faulkner, c'est adapté d'une nouvelle de Haruki Murakami, Ici de Gadeville Magnifique. De façon très juste en plus.
Cette réplique, il dit il y a trop de Gatsby en Corée, quoi.
Ouais, il y a trop de jeunes Coréens qui ont de l'argent et qui
ne
savent
pas
quoi en faire.
et c'est
très très intéressant, mais c'est pas ça qui m'a happé dans le film, c'est vraiment cette espèce d'intensité de l'actrice principale. Et c'est bizarre, c'est que le second personnage purement principal qu'on suit, donc le jeune auteur, qui est assez taiseux finalement, il y a un truc qui se crée entre lui et nous, qui est de l'ordre c'est impalpable, quoi. C'est assez magique. Franchement, je m'attendais pas du tout à être prise comme ça dans ce truc. Et moi, tu vois, les 2h30, je les ai vraiment pas vues passer. Dans la salle, les gens disaient, oh là là, 2h30. Il y a des gens qui sont partis de la file parce que 2h30, ça leur paraissait genre le bout du monde. Et c'est passé tranquille.
Il y a de plus en plus il y en a eu beaucoup cette année à Cannes, des films de 2h30.
Les ans, là, c'est de pire en pire.
Mais c'est dans tout le cinéma mondial, et c'est autant dans les films d'auteur que dans les blockbusters.
Les films
films font de plus en plus 2h30, ouais. Et la plupart du temps t'as envie d'en enlever une heure. C'est un vrai problème, ça. J'en discutais hier avec quelques collègues journalistes et attachés de presse, et c'est vrai que des fois tu te dis peut-être qu'on manque un peu de producteurs, cette génération à l'heure actuelle, de producteurs capables de dire, de vrais producteurs capables de dire à un réalisateur, c'est trop long, on coupe ton film. Quoi.
Et on n'a pas encore vu le Nouri Bilge Ceylan qui dure 3h08 en fin de festival.
Qui lui sait prendre son temps. Alors on va enchaîner avec cette fois un film américain, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui était aussi en compétition. David Robert Mitchell, il s'était notamment fait remarquer il y a quelques années avec un film à la Semaine de la Critique, un film de genre très autorisant qui s'appelle It Follows. On le retrouve cette fois dans la cour des grands. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle? Est-ce que tu en as pensé?
Ouf, faut que je pitch là. Écoute, alors le pitch, ça se passe donc à Los Angeles et c'est un jeune homme interprété par
Andrew Garfield.
Andrew Garfield, voilà l'ancien deuxième Spider-Man. Là, je le précise parce qu'ils lui font même des clins d'œil dans le film. Ouais. Il lit des comics de Spider-Man, tout ça.
Et ça lui colle à la main.
Voilà. Voilà, c'est le genre d'idée très littérale et très très bête. Moi, je trouve qu'il y a dans le film, quoi.
Ouais. C'est vrai que là, vous le vendez pas bien là.
C'est-à-dire, il se retrouve avec une matière collante sur la main et il se réveille, il s'est endormi et le comics de Spider-Man lui colle à la main. Ok, on a compris le message que tu voulais faire passer. Alors ce jeune homme qui rencontre une nana étrange qui en tombe amoureux, elle disparaît et il va tenter de la retrouver en plongeant dans une sorte de Los Angeles mystérieux et interlope, en se mettant sur la piste d'une sorte de secte, quoi, pour retrouver cette jeune fille. Voilà. Alors, ça va, j'ai bien pitché ?
Oui, parce que ce qu'il faut voir, c'est que narrativement, et ça s'inscrit un peu dans les... Je dirais dans le genre néo-noir, avec un refus du récit vraiment complètement.
Non, mais complètement. À la base, moi, je trouve que c'est un film qui relève un petit peu dans une sorte de sous-genre assez moderne.
Qui sur le papier peut être chouette.
Sur le papier pourrait être chouette. C'est un genre, je pense, qui a commencé vraiment à émerger peut-être avec, que je n'aime pas le film, mais le Mulholland Drive de David Lynch, sur ce genre de Los Angeles parallèle, quoi, tu vois, mais presque au sens fantastique du terme, quoi. Et qui a été nourri par beaucoup de jeunes auteurs indépendants, bien prétentieux, comme Richard Kelly ou des gens comme ça, quoi.
Paul Thomas Anderson.
Voilà, aussi, ouais. Mais oui, tu parles avec son film
Inherent Vice,
ouais, avec Joaquin Phoenix, le truc de Pynchon. Mais voilà, bon, et c'est vrai que c'est un univers qui reprend beaucoup d'archétypes venus de Chandler, du récit noir, comme tu dis, quoi, parce qu'il y a une sorte d'enquête, quoi, aussi, en se confrontant à des éléments narratifs qui restent volontairement dans le flou, qui sont pas explicités, tout ça. Voilà. Bon, c'est vrai que ce que tu dis, que à la base on pourrait faire un très bon film avec ça, c'est faisable. Le problème de ce film, c'est que c'est un film qui ne va nulle part et qui s'y rend armé de sabots gigantesques, quoi. Ce que je disais, par exemple, l'idée sur Spider-Man, c'est que c'est constant dans le film. C'est un film qui moi personnellement je trouve n'est vraiment pas d'une subtilité phénoménale, quoi. Et c'est un film qui en plus, alors c'est pareil, je crois qu'il dure 2h15, 2h20, un truc comme ça. C'est horrible, hein, à regarder. On sent le temps passer à chaque minute, parce que c'est un film aussi qui s'autorise des digressions, mais même au détour d'un plan. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas compris, j'ai éclaté de rire parce qu'il y a 5 vieux qui sont sortis à ce moment-là de la salle. Mais il y a un plan où il y a un acteur là, qui joue, qui est aux toilettes en train de faire caca. C'est un personnage qui se déguise en Jésus, quoi. C'est un chanteur. Hein. Et le héros vient le questionner, il le sort des chiottes comme ça. Et puis pendant qu'il questionne, il y a un plan sur les toilettes avec son étron en train de flotter. Et tu te dis, mais pourquoi ? Et régulièrement, je me disais comme ça, il y avait des plans ou même des scènes entières où je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi il a fait ça, quoi ? Et je pense que lui-même ne savait pas trop pourquoi il le faisait. Mais si ce n'est pour la raison de vouloir volontairement, diluer la tension de son spectateur et prendre un petit peu la pause, quand même.
Ouais, moi, c'est dans l'approche et dans un genre complètement différent, ça m'a fait penser en fait à La La Land, en fait brasser toutes les références pour essayer de les mettre au goût du jour et à mon sens au côté négatif du goût du jour, c'est-à-dire juste en faire un objet de mode qui, je pense aussi parce que le matériau de base est de toute façon moins populaire que la comédie musicale pour La La Land. J'ai peur que le film n'ait pas du tout le même succès que La La Land.
Non, c'est pas un film populaire du tout.
Mais je trouve dans la démarche il y a ça, donc qu'on peut aimer ou comme moi je suis un peu comme toi, ça me parle pas et ça m'intéresse vraiment pas beaucoup de faire ce truc là. Tout paraît très gadget en fait, c'est-à-dire que il y a les Les enjeux sont extrêmement faibles à cause du récit très diffus, et en même temps, ce qui pouvait être compensé, notamment dans les films noirs d'époque, par le charisme des personnages, par des répliques, par des choses comme ça, par le charisme des acteurs aussi, est pas du tout au niveau. Pour moi, j'ai beaucoup dit de mal d'Andrew Garfield dans nos ciné, film après film, même dans les films que j'aime bien, comme le Mel Gibson. Moi je trouve que c'est encore une fois une démonstration de son absence totale de charisme.
Je trouve que c'est plutôt un bon acteur. Ce qu'il fait dans le Scorsese, il fallait le faire quand même, moi je trouve.
Oui, c'est vrai. Mais pareil, je trouve que. Enfin, il fallait le faire, mais quelqu'un l'aurait fait mieux que lui. Mais bon, ça devient un running gag pour moi.
Là où je suis d'accord avec toi. C'est sur le côté quand tu parles du lien avec le film noir, effectivement le film noir et les récits type hard boiled à la Chandler ou des trucs comme ça, il y a souvent une intrigue très complexe où on se perd, où le spectateur finit des fois par ne plus rien comprendre à ce qui se passe. Mais c'est très vrai ce que tu disais, où en général la caractéristique principale de ce genre là justement, c'est de t'accrocher au personnage. Et au bout d'un moment, la toile d'araignée dans laquelle ils sont pris, l'architecture de cette toile n'est plus très importante parce qu'on est axé sur les personnages avant tout. Quoi. Et là, effectivement, c'est pas le cas. Il y a juste la toile d'araignée et on sent qu'il ouvrage ça de manière à nous paumer complètement. Et à l'intérieur de ça, les personnages sont des marionnettes. Quoi, tu vois, c'est très énervant parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune ambition narrative. Quoi. C'est juste il instrumentalise. Ce genre de film, quoi, plutôt.
Après, je trouve que ce qui survit quand même, malgré tout, un peu à tout ça, c'est quand même un peu l'ambiance et la manière de montrer Los Angeles. Enfin, il y a quand même des choses qui sont.
Moi, je trouve qu'il y a une très belle photo.
Oui, en plus.
Il y a une très belle photo, c'est le seul point dommage, parce que tu dis que c'est un peu gâchis, tout ça. Ouais. Mais je pense par exemple à la scène de bain nocturne entre le personnage et la fille. Hein. Elle est vraiment très belle visuellement, cette scène.
Qui est jouée par Riley Keough, d'ailleurs, qu'on a vu dans pas mal de films, commencé par Mad Max Fury Road.
Non, mais vraiment, il y a une belle photo, mais ça dépasse pas ça, parce que. Moi je trouve pas qu'il y ait d'ambiance, justement. Je trouve que l'ambiance, il arrive jamais à la créer, quoi. On est constamment en dehors de ça. Pour créer une ambiance, je pense qu'il faut arriver à immerger son spectateur, quoi, t'vois. Et comme lui, il y a un refus profond de faire ça, au bout d'un moment.
Et oui, et alors en parlant d'ambiance, on va parler du dernier film qu'on a vu en compétition. On l'a vu ce matin, tout juste avant d'enregistrer avec Lucille. C'est Dogman de Matteo Garrone, donc un film italien qui raconte l'histoire d'un toiletteur pour chien, au physique un petit peu disgracieux, qui se fait un peu emmerder par tout le monde, pas beaucoup respecté, et à qui il va arriver des crasses. On est dans un décor d'une sorte de pseudo-station balnéaire de la Louse, avec une photo un peu crasseuse, justement. Et y a des chiens très méchants, il y a des hommes très méchants. Qu'est-ce que t'en as pensé, Lucille ?
Alors, tu dis qu'il y a des chiens très méchants. Moi, je trouve pas que dans le film il y a des chiens très méchants. Je trouve qu'ils donnent beaucoup.
Ils font peur, en tout cas. Ils sont féroces.
Alors oui, ils font peur, mais ils présentent les animaux comme ils présentent certains personnages du film. Dans ce sens, c'est un film assez antispéciste parce que le seul danger du film, lui, le personnage principal, n'a jamais peur des chiens. Il est toiletteur, il a l'habitude. On se retrouve face à, effectivement, le film commence là-dessus, sur un chien qui est pas du tout content d'être lavé et qui a l'air vraiment, mais genre.
Je suis pas très fort en chien, mais je sais pas, c'est un pitbull ou un truc comme ça.
C'est pas un pitbull, mais c'est un gros truc.
Ça fait peur.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'ai un peu peur des chiens, j'étais pas bien.
Ouais, c'est le but. Et lui, il se démonte à aucun moment et il arrive à ses fins. Et à la fin, le chien est content et ça marche très bien. Et le film ne part pas du tout dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce petit bonhomme effectivement malingre et pas très charismatique, se retrouve opposé à une brute épaisse qui terrorise complètement la ville. Et tu dis qu'il ne se fait pas respecter de tous, mais en gros, le toiletteur est quand même intégré dans une vie de quartier. Ouais. Il a une fille, même s'il est séparé de sa femme. Et même s'il est totalement transparent, il est quand même intégré dans une équipe de foot. Enfin, le mec a une vie de quartier... voilà. Mais cette espèce de brute épaisse qui fait peur à tout le monde, mais qui est vraiment quasiment qui est une bête, quoi, pour le coup. Le mec a l'air de mesurer 2 mètres, il pète le nez des gens en passant parce qu'il s'ennuie, il est terrifiant. Et ce que le film démontre, c'est que ce chien au début que le toiletteur va réussir à calmer, la bête humaine... La confrontation va être beaucoup plus compliquée. Et je trouve, mais on en a parlé un petit peu, que c'est quelque chose de très intéressant. C'est une réflexion sur la masculinité toxique qui est vraiment très intéressante.
Oui, je disais que ça pourrait être... le film pourrait être étudié par un podcast ami, un podcast de Binge Audio, Les couilles sur la table de Victoire Toyon.
Qu'on salue.
qui m'en passe un bonjour. Voilà.
Mais parce que le personnage, même s'il n'est pas beau et même s'il est petit, est quand même brillant dans son travail et est un bon père, est un bon voisin et un bon collègue.
Bon, après, on n'a pas précisé qu'il est aussi dealer.
Alors,
bon,
il deal un peu. Non, mais c'est parce qu'on le film est quand même ancré dans une réalité sociale qui est quand même pas facile. Donc, du coup, on sent qu'il deal un peu sur le côté pour faire un peu de thune aussi, pour faire plaisir à sa fille. Et c'est pas la partie principale de ce personnage, en fait. Il fait ça parce que c'est une réalité du quartier, quoi. Mais du coup, c'est un personnage profondément positif et assez bon, qui est opposé à un homme qui va dans des clubs de striptease ou dans des espèces de boîtes de nuit où les filles sont objectifiées, qui donc se bat, qui prend beaucoup de drogue. Et c'est vachement intéressant, je trouve, aujourd'hui, qu'on voit en Italie un film qui valorise un personnage masculin qui n'est pas du tout une incarnation de la virilité, au contraire.
En même temps, il le fait par les voies classiques de la masculinité.
C'est-à-dire, tu vois.
Bah, je veux dire, il essaye de se faire respecter par.
Oui, mais du coup, quand il le fait, c'est un échec. Au final, ouais. C'est un constat d'échec. C'est qu'il essaye de le faire par des voies qui sont ses voies à lui, c'est-à-dire la voie de la bonté, la voie du dialogue, la voie de normal. Et ça ne marche pas. Il est opposé à un mur de violence et sur lequel il va complètement se faire défoncer. Donc le film est un constat d'échec.
Bon, c'est un film de mauviette, quoi. Moi, je devais aller le voir tout à l'heure. Là, vous m'avez pas donné envie. Là.
Alors, faut voir que Matteo Garrone, il s'était fait connaître à Cannes il y a quelques années avec Gomorra, qui était un film sur la mafia napolitaine, très incarné, qui montrait aussi les petites gens de cette mafia et puis l'ultra-violence dans les quartiers. Et il était parti dans des virages à 180 degrés. Il a fait un film sur une sorte de télé-réalité bizarre
qui
s'appelait Reality. Et son dernier film à Cannes, c'était Le Comte des Contes, qui était pour le coup un film...
adapté d'un texte classique italien et avec beaucoup d'acteurs de plein de nationalités différentes, mais qui était une sorte de film en costume un peu d'époque.
Un film fantastique très ambitieux, quoi. C'était, c'est quasiment essayer de faire Le Seigneur des Anneaux, quoi. Mais
c'était plein de petites paraboles sur des réflexions sur l'humanité. C'était vraiment très complexe. Et ces deux derniers films, donc Reality et celui-là, ils les avaient pas techniquement réussis parce que c'était très 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 ambitieux.
Ouais, et là il revient à un projet déjà plus proche de ce qu'il faisait à l'époque de Gomorra et en même temps un projet plus simple, plus petit, concentré sur moins de personnages, sur moins de lieux.
Et en termes de cinéma, on est quand même assez servi parce que effectivement la photo, moi je trouve la photo vraiment réussie. Je trouve que cette espèce de ville balnéaire à moitié abandonnée, des fois on voit une voiture passer au loin, mais on a quasiment l'impression que personne n'habite là, à part 10 personnes. C'est très 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 réussi. Et il a vraiment une façon de filmer les chiens qui est bluffante. Alors du coup, David, t'as dû en faire des sueurs froides, tu vois, je te disais, c'est un film qui est propre dans le sens où on a affaire à un vrai à une vraie proposition de cinéma et à un vrai travail de réalisateur pour moi. C'est-à-dire que cette histoire, elle casse pas quatre pattes à un canard, on l'a probablement déjà vue ailleurs. Et en même temps, je le trouve qu'il l'a fait avec beaucoup de panache, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. Et d'ailleurs, la violence est là, hein, le film est extrêmement violent quand même.
Moi, j'avoue que ça m'a assez peu passionné, mais...
T'as préféré Cujo ?
Je ne sais pas. du coup, bah, on arrive un peu au bout de cette émission. Alors avant, Lucille, tu voulais nous parler. Alors on arrive un peu à la fin du Festival de Cannes et les prix commencent à être remis. Et notamment, la Semaine de la Critique a fait sa clôture hier et le Grand Prix de la Semaine est revenu à Diamantino de Félix Martino. Je n'ai vu qu'une image de ce film. C'était une sorte de joueur de foot qui, dans une sorte de grosse mousse rose avec des Pollux du Manège Enchanté. Ça a l'air très bizarre.
Et c'est exactement ça. C'est très bien. C'est vrai que l'image du film qu'ils ont mis partout est très intéressante et très bizarre, mais elle est vraiment dans le film. Donc c'est un film portugais et c'est une comédie assez déjantée, mais qui propose dessus une vraie critique de la récupération de l'image des sportifs, en l'occurrence là d'un joueur de foot, par le Front National en Europe. Et c'est aussi une réflexion sur les migrants. Alors, wow. ouais, non, mais c'est très
d'où
dense.
D'où la présence des Pollux.
Des Pollux, de la... exactement.
je comprends tout maintenant.
Imparable.
Alors, le film est effectivement très, très riche en création visuelle et en délire comme ça, presque gratuit. Là, c'est totalement gratuit, hein, je vous avoue. Le concept des Pollux, du coup, c'est que le personnage...
Peut-être ne nous spoil pas. Restons dans le rêve.
Spoil pas, mais c'est un joueur de foot. Et il est génial, c'est une sorte de Ronaldo hyper beau gosse qui passe ses journées en slip avec son nom écrit dessus.
D'accord.
Qui est très 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 bête et donc enfin très naïf et très gentil mais très très bête et c'est un génie du foot et en gros quand il arrive dans une espèce de zone dans sa tête où quand il va marquer il se retrouve dans cette zone de barbe à papa rose avec des petits chiens poilus. Dans le film il dit petits chiens poilus géants et c'est ça, c'est des sortes de shih tzu hyper moches avec une tête de shih tzu nulle et il perd cette vibe parce qu'il...
Le shih tzu.
Oui, ça s'appelle comme ça. Ouais.
Ok.
Et il perd cette vibe parce que son âme est éveillée par le fait que sur son yacht un jour il voit qu'il y a des gens qui sont sur des canoës et qui parlent pas sa langue et qui vont peut-être mourir. Donc en fait le mec découvre qu'il y a des gens pauvres dans le monde et des migrants et il perd son monde un peu comme ça de footballeur star qui connaît pas la vie et il est profondément bête. Donc il y a les réfugiés par exemple, il appelle ça des fugiés parce qu'il comprend pas le mot tout à fait. Et le film est comme ça là-dessus, sur tous ces trucs bêtes. Il est obsédé par une sorte de banga, il mange des crêpes au Nutella toute la journée. C'est un enfant dans sa tête, et du coup, c'est assez touchant. Et le propos est assez touchant et simple, un peu d'enfant sur ces questions-là de la migration et de la politique. Mais ça raconte un vrai truc, et en l'occurrence sur la question du Front National, et il parle au fait du fait que le Portugal voudrait sortir de l'Europe, par exemple, qui sont des questions qui aujourd'hui se posent vraiment politiquement. Bah, sous les abords d'une comédie un peu nanardisante, il y a quand même des réflexions derrière, et c'est porté par un acteur qui est extrêmement drôle, qui va jusqu'au bout de son rôle, il le fait très très bien, puis il y a des blagues débiles à base de Lamborghini, enfin c'est très, moi je l'ai vu ça le soir, je l'ai vu ça à 22h, et pour moi c'était quasiment une séance de minuit, j'étais morte de rire, j'étais super contente, il y a des gens qui sont sortis en disant c'est un scandale qu'on voit ça ici, pourquoi on voit ça ici, vous foutez de notre gueule, et en fait pas du tout, moi je trouve que c'est aussi ça qu'on a envie de voir, on l'aurait pas vu autrement sans le festival, et peut-être que cette espèce de comédie foutraque qui ressemble à rien mais qui est pas complètement con va trouver son public en salle grâce à ça.
Mais pourquoi ils étaient outrés les gens, je comprends
pas. Bah parce que c'est un type en slip qui court avec des chiens géants, enfin je veux dire ça n'a aucun sens.
C'est un spectateur canois, il y en a certains, on devrait les envoyer de force au marché, là, voir des séries Z, des
c'est
trucs
ça,
comme ça.
Mais en fait c'est ça,
faut s'ouvrir un peu là.
C'est un discours de gens qui ont envie de voir que des films sociaux avec des personnages mais oui, mais parfois on peut raconter des choses en prenant des biais détournés, et là c'est totalement le cas.
Parfois on fait ce qu'on veut.
Voilà.
Il n'y a pas de schéma.
Et ben on fait ce qu'on veut et on va même conclure cette émission. Merci beaucoup Arnaud, merci Lucille.
Merci David.
Merci
à tous d'avoir écouté cet épisode 5 de Nos Ciné spécial Cannes. Un grand merci à la quinzaine des réalisateurs pour l'accueil. Merci à Camille, Alban et Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. Et puis bah, la prochaine fois, ça sera le dernier épisode, l'épisode du bilan, l'épisode de la fin. Et
Le Avengers Infinity War de nos ciné.
Et on sera tous rassemblés pour dire des choses dans vos petites oreilles. Au revoir.
Au revoir.
À très vite.
À quel moment ça a merdé ? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement, vous n'êtes pas du bon côté.
Binge.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.